BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Pierre Servent qui nous accompagne. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Spécialiste des questions militaires. Tiens, alors que les vacances se profilent, son roman sorti à la fin de l'année dernière, Le Testament aulique. C'est passionnant justement. De l'histoire, du roman, c'est tout Pierre Servent. Bonjour Jean-Luc Sauron.
Bonjour Maurice.
Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. L'Europe, toujours d'actualité, bien
toujours
entendu,
d'actualité.
En cette fin juin, bien sûr. Alors oui, on va revenir hein, sur ces combats violents à Raqqa, dans le nord de la Syrie, la capitale de l'État islamique, hein, la prochaine chute de Mossoul aussi, on est en Irak, on y reviendra. Les deux grands bastions de l'État islamique. Hein. Justement, tiens... Où se trouve, où est Abou Bakr al-Baghdadi, vous savez, celui qui avait bien proclamé le pseudo-califat, c'était il y a 3 ans pile, hein, juin 2014 justement. Est-ce qu'il est toujours vivant ou est-ce qu'il a été tué par l'aviation russe, comme Moscou eh bien, l'affirmait ce vendredi matin. Donc, eh bien, les bombardiers russes hein, qui visaient une réunion à laquelle se trouvait Abou Bakr al-Baghdadi, c'est le ministère des Affaires étrangères russe hein, qui donnait cette information. On n'avait aucune nouvelle. La dernière vidéo, quand même, de Baghdadi, elle date justement de la proclamation du califat de juin 2014, Pierre Servent.
Oui, effectivement, il a disparu de la circulation. Et d'ailleurs, il y a eu des rumeurs à d'autres époques disant qu'il avait été tué dans telle ou telle opération. Donc, on n'en sait rien. Là, est-ce que les Russes, réellement, ont des informations sérieuses sur le fait qu'ils auraient pu le toucher? Ou est-ce qu'ils anticipent le fait que al-Baghdadi pourrait être tué dans les combats de récupération de Raqqa ou éventuellement de Mossoul, s'il est dans l'une ou dans l'autre des villes, et que c'est plutôt pas mal de préempter l'éventuelle disparition de ce chef en disant, bah, attendez, non, les Américains annoncent qu'ils viennent de le tuer, mais nous, c'est nous qui l'avons tué auparavant. Donc il y a un peu une course à l'échalote, si je puis dire, sur la tête de ce personnage emblématique. Bon, enfin, sa mort ou sa non-mort ne changera pas grand-chose à la suite des événements.
Il y avait 25 millions de dollars hein, mis sur sa tête pour toute information. Tout renseignement, justement. La Russie, les Russes, hein, l'armée russe affirme avoir déjà éliminé des dizaines de chefs de l'État islamique. Comment on traque ce genre de gars, justement, vous, le spécialiste des questions militaires, Pierre Servent?
Alors, par le renseignement et en recoupant tous les types de renseignements, c'est à la fois du satellitaire, c'est à la fois de l'observation, des écoutes et du renseignement terrain. Et c'est à partir de ce croisement qu'on arrive à pister les différents chefs terroristes. Alors les Russes, depuis leur intervention à l'automne 2015, ont tué un certain nombre, mais les grands, entre guillemets, tueurs de ce qu'on appelle les cibles à haute valeur ajoutée, ce sont les Américains, les forces spéciales américaines qui, depuis 2014-2015, on en tué un grand nombre, notamment en Syrie, y compris en montant des opérations forces spéciales, à la fois pour capturer, mais en général ça se termine par la mort de ce chef, et lors de ces opérations, les Américains ont récupéré des épouses, qu'ils ont enlevé, mais apparemment avec leur bonne volonté, et également beaucoup de matériel informatique, car Daesh, par rapport à Al-Qaïda, c'est une entité qui marche complètement dans la révolution numérique, et qui a donc un matériel informatique considérable, et donc à chaque fois, les Américains ont récupéré ça, et donc, dans les ordinateurs, vous récupérez du renseignement pour savoir qui est où, etc., et c'est en permanence, en recroisant tout ce renseignement, qu'on arrive à pisser les uns et les autres. Plus, alors, je ne donnerai pas plus de détails parce que ces chefs savent comment on les traque et donc on s'est rendu compte avec Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Daesh depuis le début qu'ils ont toute une série de parades. Pour ne pas se faire repérer. Mais en même temps, heureusement, les services secrets occidentaux ou autres, notamment d'Arabie Saoudite ou autres, arrivent à percer ces protections et identifier les différents chefs.
Bon, Baghdadi est mort ou pas, de toute façon, on ne sait pas encore s'il était aux affaires. Hein, de toute façon, Pierre Servent.
Oui, non, et puis c'est une structure qui reste quand même très décentralisée, avec des mots d'ordre généraux, génériques, qui sont transférés par Internet. C'est ce qu'on voit, on va en parler peut-être, aux Philippines.
Oui, bien sûr.
Puisque vous avez une sorte d'extension du domaine du djihadisme dans plus de 90 pays.
En Asie du Sud-Est.
Voilà, avec des mots d'ordre communs et généraux. Et on a bien vu que la mort de Ben Laden n'a pas fait disparaître complètement Al-Qaïda, qui est présent au Yémen, comme au Maghreb islamique. islamique.
Et au Kenya, on parlera aussi d'attentats cette semaine provoqués par les Shabab qui sont affiliés à Al-Qaïda.
Voilà. Et juste pour terminer, on continue de constater un phénomène que j'avais décrit il y a déjà plus d'un an dans un de mes livres, à savoir que dans un certain nombre de pays, vous avez des vieilles luttes ancestrales, souvent des mouvements séparatistes ou des opérations mafieux, enfin ou des groupes mafieux, qui vont tout d'un coup se radicaliser. Et ils vont se rebaptiser avec un nom de Daesh et ils vont substituer à un langage classique anticapitaliste ou antigouvernemental un langage contre les mécréants, c'est-à-dire qu'ils vont religiosiser, enfin ils vont transformer en discours religieux ultra-musulmans des combats
locaux, tout
à fait politiques, irrédentistes, classiques. Donc cette espèce de lèpre du salafisme de combat qui continue à
perler ça et là. Alors aujourd'hui, Daesh ne règne plus que sur quelques centaines de milliers d'habitants en Syrie et en Irak. Hein. Tiens, Raqqa, justement, capitale toujours entre guillemets, bien sûr, de l'État islamique en Syrie. C'est de là qu'étaient planifiés, entre autres, des attentats donc qui ont ensanglanté l'Europe. Raqqa, actuellement presque entièrement encerclée donc par des forces arabo-kurdes hein, qui ont pénétré dans plusieurs quartiers de l'Est et de l'Ouest en direction de la vieille ville. Hein. Les forces démocratiques syriennes, les FDS, des combattants, des hommes, mais aussi des femmes.
Les deux autres axes ont été retardés en raison des affrontements et de la présence d'un nombre important de mines. Nous avons donc pris les mesures nécessaires et nous continuerons à entrer dans la ville à partir de ces axes.
Et Pierre Servant, les combats ils sont extrêmement vifs hein, à Raqqa. L'armée, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler forcément d'armée quand on parle de Daesh, elles font là aussi, hein, bien sûr, quelques milliers de combattants extrêmement déterminés, comme on l'a vu à Mossoul.
Voilà, ils sont déterminés à mourir, mais la ville est plus petite, donc Raqqa c'est plus petit, Mossoul c'était plus de 2 millions d'habitants, ouais. Là on est sur 200-300 000 habitants, et c'est pour ça que quand vous regardez la carte, Raqqa est adossée à l'Euphrate, ouais. Et donc après vous avez trois fronts, l'Euphrate c'est assez facile à contrôler, il suffit d'avoir des avions de combat. Malheureusement, des civils ont été tués en passant l'Euphrate pour s'extraire. Il y a une confusion entre des civils et des combattants. Et par ailleurs, après, vous avez trois fronts, trois portes d'entrée. Et l'option qui a été prise par la coalition, c'est d'attaquer sur les trois fronts parce qu'il n'y a pas beaucoup de combattants de Daesh à l'intérieur. Donc ça les contraint à s'émietter. Mais c'était dit dans le reportage. D'ailleurs, on voit bien un peu la topographie dans le reportage. C'est-à-dire, c'est un habitat.
Dans le son de cette combattante.
Dans le son, pardonnez-moi.
Oui, commandante.
Voilà, la commandante, ce qu'elle expliquait. Donc ce sont des paysages avec des bâtiments de très peu d'étages, assez clairsemés, et la zone de Raqqa qui a toujours été une zone agricole, alimentée notamment par un barrage qui se trouve à quelques kilomètres de là et qui a été la dernière prise militaire pour terminer, exactement, le blocage de la ville. Mais cette zone agricole est bourrée de canaux d'irrigation, et dans ces canaux, les groupes de combat de Daesh ont mis des explosifs, et vous avez plus les snipers, plus les drones équipés de grenades ou d'explosifs qu'on a vus sur Mossoul. Oui. Donc tout ça crée une menace du faible au fort. Le faible, c'est Daesh. Le fort, c'est les autres. Et on touche du doigt ce qu'on appelle communément le pouvoir égalisateur de la guérilla. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une force appuyée par la coalition avec des moyens considérables. Daesh, c'est une force rustique, mais c'est une force assiégée qui a eu le temps de préparer son territoire et qui cherche à renverser le rapport de force qui lui est défavorable par ce type de combat, par les kamikazes, par la présence de civils.
Jean-Luc Sauron.
Ben les deux villes, Raqqa et Mossoul, ne posent pas complètement le point commun, c'est que les forces d'attaque sont très composites. D'ailleurs, sur Raqqa, il y a une présence importante des militants kurdes, et sur Mossoul, il y a une composante assez importante de chiites avec des unités irakiennes sunnites pour essayer de faire l'équilibre. Mais ce qui est évident, c'est que Mossoul pose déjà le problème de l'après-Mossoul sur, qui va occuper cette zone, comment se répartir. Et c'est beaucoup plus, on en parlera peut-être tout à l'heure,
ouais,
avec le Kurdistan.
Une poignée de secondes,
bien sûr. Mais bien évidemment, le fait que les Kurdes jouent un rôle aussi important quand même sur, avec des unités qui ne sont pas que kurdes. D'ailleurs, ils ont eu l'intelligence de, entre guillemets, métissés avec des tribus arabes locales. Là, on est en train de rentrer dans le danger.
Dans l'après, voilà,
suivant,
un peu compliqué.
La paix, mais dans des contextes différents. La Syrie et l'Irak, ça n'a rien à voir.
Ouais, et les civils, hein, Pierre Servant, il faisait allusion, bien entendu, que ce soit à Mossoul ou à Raqqa. Avant l'offensive, Raqqa, 300 000 habitants, il en reste 160 000 vivants. tentant de vivre plutôt au milieu de coupures d'électricité, d'eau, hein, avec des pénuries alimentaires, des boulangeries sont fermées, situation humanitaire très difficile. Après les 3 ans d'horreur, d'exécution, d'exaction en tout genre, évidemment que ces malheureux ont connu. Alors justement, tiens, vous avez eu raison d'aborder le sujet, Jean-Luc Sauron, puisque de l'autre côté, en Irak, on prépare la suite, activement. Le Kurdistan autonome, Kurdistan irakien, capitale Erbil, on est dans le nord-ouest du pays, dont le président Massoud Barzani vient d'annoncer un référendum d'autodétermination pour le 25 septembre. Oui. 25 septembre, province quasiment déjà indépendante, clairement. Oui. Alors, est-ce qu'elle ira au bout de ses ambitions? Est-ce qu'on la laissera faire? Justement, Bagdad s'y oppose, Jean-Luc Sauron.
Alors, le jeu qui est compliqué, c'est que la zone, a été montré à votre carte il y a 2 secondes.
La zone. Pour ceux qui nous suivent à la télé, mais on est aussi suivi à la radio.
Voilà. On a une zone qui est extrêmement riche en pétrole, également en terres agricoles extrêmement riches dans cette zone-là. Et c'est vrai que les deux principaux partis kurdes du Kurdistan irakien se sont mis d'accord pour ce référendum.
Alors là, évidemment, Jalalabad,
le gouvernement central refuse totalement, puisque ce serait l'amorce d'une partition, alors que le travail qui est fait par le gouvernement, c'est l'idée d'une fédération, malheureusement très répartie ethniquement, c'est-à-dire que visiblement et religieusement. Les Russes, eux, ne sont pas, pour le moment, là-dessus, sur l'Irak, ne sont pas en position. Les Américains, qui soutiennent les Kurdes comme un élément moteur de lutte contre Daesh.
Oui, parce que les Peshmerga, les combattants kurdes, font preuve en permanence et font preuve depuis 3 ans de courage, d'abnégation. Ils sont considérés un peu comme des alliés des Occidentaux.
Je pense, et surtout avec ce courage, je crois que tous les Européens ont été fasciné, je sais pas, mais par ces combattantes.
Et c'est femmes,
à une époque, on disait que les gens de Daesh refusaient d'être tués, enfin, avaient peur d'être tués par une femme combattante, parce que dans leur imaginaire, c'était vraiment la fin du fin. Alors, l'élément qui est intéressant, c'est donc que l'Irak est contre. Bien sûr, la Turquie n'en veut pas.
Dites donc.
Pour de manière à ce qu'il n'y ait pas l'amorce d'un grand Kurdistan qui
engloberait. Voilà, c'est ça.
Les Iraniens ne sont pas non plus très pressés.
Ah ben non, ils ont quelques Kurdes quand même sur leur territoire.
Et là, on a un truc qui est amusant, qui est étonnant, c'est que les Émirats Arabes Unis aident au financement du référendum du Kurdistan. Et là encore, on a le fameux jeu de la péninsule arabique entre chiites et sunnites. On le retrouve là. Les incidents qu'on a dans la péninsule.
Et puis, question aussi, tout ça est très compliqué. Quel territoire sera couvert par le référendum? La minorité chrétienne a peur d'être coupée en deux, justement, entre ceux qui resteront au Kurdistan irakien et puis ceux qui resteront dans l'Irak, le vrai Irak. Oui, Pierre Servant.
Oui, juste avant de revenir sur ce point que vous évoquez, le Monde a publié il y a quelques jours, sur quasiment une double page, une photographie hallucinante de populations civiles fuyant Mossoul. Quand vous voyez cette photographie, c'est l'enfer de Dante. C'est l'enfer de Dante, tellement c'est apocalyptique. Vous voyez ces familles imbriquées, des enfants qui pleurent, etc. Pour rappeler quand même, parce que nous discutons de ces sujets, on essaye de les éclairer et on les a sur la table pour quelques décennies, c'est vraiment cette réalité de ces populations. Finalement, je dirais pas qu'on s'est habitué, mais surtout qu'en plus, la question c'est après qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je veux dire, il y a une réalité humaine qui est terrible, et au-delà de ce que disait Jean-Luc Sauron, c'est-à-dire toutes les problématiques politiques qui sont, c'est les poupées babouchka russes. Vous en ouvrez une, même telle poupée qui va être identifiée comme turque, en fonction des autres qui sont à l'intérieur, c'est pas la même position. Pareil pour les Iraniens, pareil pour les Russes. Donc c'est d'une complexité extrême, mais à chaque fois, la variable d'ajustement par la terreur et l'écrasement, ce sont ces populations civiles, ce sont ces jeunes, et c'est là aussi le problème dans la durée, c'est toute cette jeunesse blessée psychologiquement, ceux qui sont combattants, les Yazidis qui ont été génocidés par Daesh, et les enfants transformés en lionceaux du califat.
C'est une génération perdue, qui handicape la reconstruction du pays.
Il faut que nous, qui avons la chance d'appartenir à des sociétés développées, à l'espace européen qui est si formidable, nous intégrions le temps long, la compréhension de l'histoire et la détermination à se battre pour nos valeurs en étant très pragmatique par rapport à des réalités qui sont décoiffantes pour le moins.
Alors nos valeurs, la violence islamiste qui ne s'est pas encore arrêtée donc cette semaine, l'Afghanistan, l'État islamique qui revendique un attentat à Kaboul, qui s'empare de Tora Bora, on est dans l'est de l'Afghanistan, à la frontière du Pakistan. C'était le dernier bastion d'Oussama Ben Laden, hein, fait d'un vaste réseau de grottes. Très symbolique cette prise, hein, Pierre Servent, justement, l'État islamique qui s'implante en Afghanistan en parallèle des talibans.
Oui, effectivement. Tora Bora, ça fait référence notamment à ces photos de Ben Laden un peu mythiques qui sont circulées dans le monde entier avec sa kalachnikov. Et alors, c'est intéressant cet exemple que vous prenez, parce que ça illustre une des données du phénomène guerre, hein. Gaston Boutoul parlait du phénomène guerre, c'est-à-dire un phénomène mutant qui c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les configurations première et deuxième guerre mondiale. Souvent on me dit, alors Pierre Servent, est-ce qu'on va vers la troisième guerre mondiale? Je dis, mais attendez, ça a été horrible, mais ça serait trop commode, trop confortable, entre guillemets. On va vers une espèce, j'avais appelé ça extension du domaine de la guerre.
Alors, c'était l'avant-dernier
un émiettement et des guerres evolving. C'est-à-dire des guerres qui passent par des phases de sommeil. On va reparler tout à l'heure du Kosovo, non pas que la guerre réapparaît, mais on revoit des tensions revenir. Et donc, on a une configuration mondiale, comment dirais-je, purulente. Vous avez des phases, des médecins diraient, bon, phase stable, mais le malade n'est pas du tout guéri. Vous avez des assauts de microbes qui arrivent, et puis, prof, vous avez une éruption, vous avez des parties du corps qui s'affrontent. Voilà, donc c'est vraiment un monde nouveau, début de l'époque, enfin, de nouvelle histoire de l'humanité qui s'ouvre, et qui marqué par ce côté, ce que j'ai appelé aussi guerre mercure, le fait d'avoir des boules de mercure qui s'émiettent partout et qu'on n'arrive pas bien à saisir.
À contrôler, oui. Vague de terreur aussi dans le nord-est du Kenya avec une série d'attentats faisant des dizaines de morts causés par les islamistes Shebab, cette fois eux affiliés à Al-Qaïda. La Somalie, d'ailleurs appuyée par les États-Unis, qui a détruit un camp Shebab dimanche dernier. Les Américains, justement, en renfort également. Des Philippins, cette fois, dans le combat contre Daesh sur l'île de Mindanao, donc l'État islamique qui a pris pied sur place, qui contrôle 20% de l'énorme ville de Marawi, à 200 000 habitants. On voit l'armée philippine qui peine, hein, Pierre Servent, un mot.
Oui, et qui fait appel aux Américains, alors que le président Duterte n'a pas arrêté d'insulter le président Obama. C'est une nouvelle illustration. J'en suis navré pour les auditeurs, parce qu'on ne cesse de dire ça, mais chaque fois qu'on prend un dossier, c'est une espèce d'avoir des contradictions. On pourrait parler du président Trump qui dénonce Doha et lui vend de l'armement, des avions F-15 dans la foulée, etc. On est dans les incohérences totales. Et là, l'exemple des Philippines est très intéressant. C'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce sont à la fois des vieux mouvements radicaux musulmans, d'autres politiques, des familles mi-mafieuses, mi-politiques. Vous secouez tout ça dans un shaker et ça vous donne le cocktail baptisé Daesh pour les Philippines qui sort du chapeau.
Abu Sayyaf,
et l'armée philippine qui dit, mais c'est incroyable, il y a plein de combattants étrangers, on ne s'attendait pas à une telle résistance.
Ah oui, Jean-Luc Sauron.
Je crois que ce qui est intéressant pour prolonger un peu ce que dit Pierre, c'est de voir qu'en réalité, alors bien sûr, il y aura encore les attentats, mais la grande zone habituelle des attentats à l'Europe, montant d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, ses défenses, bien le terrorisme, en fait, et l'attaque mondiale sur l'Irak et la Syrie, en fait, le terrorisme, c'est aussi un terrorisme forain qui change de zone et qui va maintenant dire, on va faire...
En Asie du Sud-Est.
Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'avoir exactement l'idée de la zone où il y a une basse pression d'organisation politique ou sécuritaire, qu'à chaque fois qu'il y a un vide, immédiatement, le terrorisme s'installe. Donc là, je crois que ce qui est intéressant,
c'est de dire l'armée américaine
à nos auditeurs, et j'espère demain peut-être aussi l'armée européenne, parce qu'en réalité, c'est un problème de gérer mondialement les conflits. C'est, je crois que il y a eu un débat interne à la France sur le, j'étais vraiment sidéré sur mon Dieu, on pérennise l'état d'urgence, etc. Mais le terrorisme, nous sommes dedans pendant 10, 15 prochaines années. Il faut gérer ça dans le temps. Et en effet, ce n'est pas des guerres de 3-4 ans, c'est des mouvements beaucoup plus longs.
Et tiens, justement, un mot, Jean-Luc Sauron, dans ce contexte de guerre, et aussi de pauvreté, bien sûr, hein, et comme chaque année à la même période, eh bien, de nouveaux afflux de migrants traversant la Méditerranée en provenance d'Afrique. Alors, on s'en souvient, on en avait parlé ici dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. L'an dernier, il y a eu l'accord donc conclu entre l'UE et la Turquie, qui avait fermé celle-ci, fermant quelque part la porte de la mer Égée. Mais un tel accord, il n'existe pas, évidemment, avec un pays qui est en totale déliquescence, qui est la Libye, bien entendu, Jean-Luc.
Alors le problème, vous avez raison de faire le parallèle, les Européens, notamment les Italiens, essayent de négocier un accord avec les autorités libyennes. Le seul problème, c'est que personne ne sait à quelle autorité, puisqu'il y a au minimum deux autorités officielles sur le territoire, officielles deux, plus ce qu'ils ont pas officiel, mais qui ont une autorité. Et là, ça pose un problème, par exemple, d'éléments livrés livrés aux autorités, au pluriel, libyennes. Par des navettes qui ont été vendues, qui sont peut-être récupérées par, pour d'autres choses. Mais il y a, vous parlez que de la Libye, mais vous avez aussi l'Algérie, qui est dans un état d'instabilité, parce que le problème avec le nord du Mali, il y a toute une zone comme ça qui demanderait vraiment très profondément à être pensée et défendue. Et
j'ai de là les 28 temps... commencent à entraîner des gardes-côtes libyens. Voilà.
Non, mais qu'ils entraînent les gardes-côtes libyens, il y a quand même tout le sud algérien, le nord du Mali et le sud Libye qui polluent la Tunisie. La Tunisie fait ce qu'elle peut avec des moyens extrêmement minimum, enfin pas énorme, mais on parlait tout à l'heure des migrants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les migrants, c'est trois zones importantes, la Syrie, l'Afghanistan, la Corne de l'Afrique.
Juste.
C'est-à-dire que si vous ne résolvez pas les problèmes du départ, eh bien vous n'aurez qu'à gérer les flux, mais c'est ingérable.
Pierre Servent.
Ce qui est terrible, c'est que ces sujets, on en parle depuis des années et on n'arrive pas à les régler. Et il y a une course de vitesse entre notre capacité à mettre des moyens en œuvre et la vitesse, je dirais, de décomposition de ces pays. Ce qui me frappe également, c'est sur la Libye, dont on parle de façon récurrente et qui est un vrai problème, oui, qui est une vraie grenade dégoupillée, c'est que on zappe ces événements parce qu'il y en a d'autres qui suscitent notre concentration dans l'actualité, mais vous avez des massacres épouvantables. Il y a quelques semaines, vous avez des bandes combattantes de la ville de Misrata, qui est une sorte d'état dans l'état, qui est allé massacrer dans le sud du pays environ 150 recrues qui normalement allaient rejoindre les éléments fidèles au maréchal Haftar, au général. Alors, je ne sais pas si c'est passé maréchal Haftar,
qui représente une
des factions. C'est-à-dire, à chaque fois, vous vous rendez compte, c'est des massacres terribles. Vous parliez tout à l'heure de l'attentat de Kaboul, c'est 150 morts. Donc c'est vraiment cette réalité qui est celle du monde aujourd'hui.
Et pendant ce temps, l'Europe toujours divisée, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, menacée de sanctions par Bruxelles pour refus d'accueillir des migrants. Et puisqu'on parlait de la violence islamiste, bah, l'image de la semaine, hein, la musique de la semaine, très émouvante également, celle du nouvel rockstar, hein, oui, le maréchal des logis chefs, Jean-Michel Mekil de la garde républicaine. Oui, vous le connaissez, vous l'avez vu, vous l'avez découvert, Pierre Servent. C'est celui qui interprétait Oasis en ouverture du match amical France-Angleterre, c'était au Stade de France, mardi soir, pour rendre hommage devant Theresa May, devant Emmanuel Macron, victime de Manchester et Londres. C'est une star mondiale, beaucoup fait par la garde républicaine, connue du monde entier. Hein.
Oui, effectivement, alors c'est vraiment le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui, et le fait que quelqu'un d'anonyme qui tout d'un coup tranche avec l'actualité est reconnu dans le monde entier. Et ça illustre le fait que la France, malgré les réductions des effectifs militaires, a su conserver un certain nombre de structures, soit les cœurs de l'armée française, ici c'est pour la garde républicaine, vous en avez d'autres sur la Légion étrangère, et ce sont des unités qui jouent un très grand rôle d'ambassadeurs à travers le monde, qui sont envoyés et qui sont mis à l'honneur, notamment les 14 juillet, en ouverture souvent du 14 juillet ou en conclusion.
Un mot avant qu'on redécouvre le maréchal des logis chefs, Monsieur Mekil, Jean-Michel Mekil, Jean-Luc Sauron.
Moi, cette scène qui m'a un peu sidéré, parce que, en effet, je ne savais pas qu'on jouait la guitare électrique
à la garde républicaine.
Donc ça m'a quand même... Je suis d'accord avec François, mais je pense en effet qu'il y a une très grande nécessité aussi d'émotions positives. Et cette soirée, ça a été de l'émotion positive.
Beaucoup d'émotions. Ouais.
Et ça, je crois qu'il faut peut-être... C'est vrai que les commémorations, ça devient un peu effrayant et routinier. Et là, on a eu quelque chose qui n'était pas que de la commémoration, qui était de l'émotion partagée entre deux peuples.
Il y avait de la joie quand même. Il fallait voir les supporters anglais dans les tribunes du Stade de France. On va retrouver dans un instant Pierre Servent et Jean-Luc Sauron. Et on se souvient de ce qui s'est passé donc mardi soir au Stade de France.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, toujours avec nous Pierre Servent, qui vous propose aussi les présidents à la guerre 1958-2017, hein, plus son roman Le Testament Aulique. Jean-Luc Sauron, qui nous accompagne aussi, professeur de droit européen à Paris Dauphine, faites l'Europe pas la guerre. D'ici 3-4 minutes, on reviendra, on se posera cette question, est-ce que Donald Trump veut remettre quelque part en cause l'ouverture à Cuba? Auparavant, direction l'Afrique du Nord, c'était, dit-on, à l'Élysée, une visite personnelle, celle effectuée mercredi par le président de la République à Rabat pour y rencontrer le roi Mohamed VI du Maroc. Jean-Luc Sauron, la fin d'une tradition, puisque jusqu'à présent, François Hollande notamment, et puis son prédécesseur Nicolas Sarkozy avait choisi l'Algérie comme premier déplacement dans le Maghreb.
Alors ça a fait une tradition, mais d'abord nous sommes à une époque de changement, et donc il faut en effet changer. Et je pense surtout que, d'abord, bien sûr le gouvernement et le président a indiqué qu'il irait très rapidement, mais sans date, en Algérie. Mais j'aurais trois choses sur ce voyage. La première, c'est que c'est le Maroc qui est le premier bénéficiaire de l'aide française. Donc c'est quand même un partenaire très particulier. Deuxièmement, nous n'avons pas, comme avec l'Algérie, une espèce de fond de mémoire douloureuse, je dirais, sur la période coloniale, ce qui n'est pas une facilité. Troisièmement, le Maroc, c'est un État qui est inséré, qui est doublement, qui a deux mouvements. D'abord, c'est un État qui a une relation particulière avec l'Union européenne. Il a un statut avancé très vite, ça veut dire que vers 2030-2035, il fera partie du marché intérieur. Ils ne seront pas membres de l'Union européenne,
non, j'ai bien compris,
mais leurs produits circuleront et inversement. Donc ça, c'est un point. Et il y a une diplomatie l'Afrique du roi Mohamed VI, qui peut être un relais assez utile aussi pour la France, qui essaye de stabiliser toute la bande francophone et au-delà. C'est vraiment, Mohamed VI pour la France, c'est un partenaire extrêmement, alors, bien sûr, certainement très très intéressant, mais doublement intéressant.
Oui, et d'ailleurs, sur un autre terrain, celui sur lequel on se trouvait dans la première partie de 7 jours dans le monde, la lutte contre le terrorisme, Pierre Servent, le Maroc est évidemment un acteur important.
Oui, c'est un acteur très, très important avec lequel nous avons des liens très étroits, une coopération étroite. Le Maroc nous a aidés sur plusieurs dossiers, sur plusieurs cas difficiles. Nous avons une très bonne coopération aussi avec la Tunisie, mais la différence du Maroc et de la Tunisie, c'est que le Maroc est informatisé très largement et qu'il y a une capacité d'échange d'informations beaucoup plus rapide, ce qui n'est pas le cas avec la Tunisie qui n'a pas ce même niveau. Ça rentre aussi dans ce niveau de détail concret. Il y a eu une brouille il y a un an et demi, deux ans. Qui était stupide, on ne peut pas se permettre cela. Et François Hollande avait fait un voyage officiel au Maroc, notamment pour mettre en place une formation des futurs imams français, formés à l'islam du juste milieu au Maroc, et puis après, leur formation était complétée à l'Institut catholique à Paris. Donc les liens sont très étroits, et je crois donc qu'il faut continuer dans cette voie. On a absolument besoin des Marocains. Des Algériens aussi.
C'était lié à des poursuites judiciaires engagées par la France contre un responsable politique
marocain. On peut pas trop... Enfin, il faut avancer, on l'a fait, donc c'était très bien. Sur l'Algérie, la coopération est évidemment très importante. L'Algérie, par rapport au dossier de Bamako, la mise en œuvre des accords d'Alger, qui est la seule façon d'arriver à résoudre la crise malienne qui n'est pas résolue au fond. Le problème de l'Algérie, avec laquelle nous avons des liens étroits aussi au niveau des services de renseignement, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Sauron, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part dans l'air une espèce de difficulté du côté de nos amis algériens compte tenu du passé colonial. Et puis il y a un pouvoir totalement vieillissant, un pays que je trouve extrêmement fragile et qui a des trous dans la raquette sécuritaire. On a toujours dit l'Algérie, c'est un truc hyper tenu. Rappelez-vous, 2013, les attentats contre le centre d'Inamenas Gazier, qui représente les bijoux de famille de l'Algérie. Mmh. Et tout ça a montré qu'il y avait des défaillances. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur des pouvoirs vieillissants avec des luttes d'influence à l'intérieur du Kremlin, c'est l'image-là, eh bien, les gens ne bossent pas. Pas suffisamment. Et à ce moment-là, les groupes islamistes, il faut rappeler qu'en Algérie, le chef d'Acmi, le cheikh d'Acmi, Abdelmalek Droukdel, est présent dans les montagnes algériennes et que par ailleurs des groupes de combat ont fait allégeance à Daesh. Donc c'est un pays important avec lequel il faut travailler, mais qui est compliqué et fragile.
Point noir, et c'était, je crois, votre dernier chapitre dans l'extension du domaine de la guerre. Vous mettiez tout le monde, évidemment, en garde. Jean-Luc Sauron.
Là, je refais le lien Maroc-Algérie. Il y a la rente pétrolière et énergétique en Algérie qui n'a pas servi de réponse du pays en réalité. Ouais. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'ouvrages et de polémiques sur la corruption au Maroc, mais le Maroc fait quand même un développement de la zone nord, justement le RIF. Il y a un développement d'entreprises automobiles.
Bien sûr, à Tanger notamment,
Exactement, extrêmement modernisé. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a tout n'est pas parfait, mais il y a une volonté de développement économique, de diffusion quelque part des ressources qui n'existe pas malheureusement en Algérie.
À condition que tout le monde en profite, parce que justement le Maroc traverse depuis quelques mois un mouvement de contestation du pouvoir, hein, manifestation contre les abus de l'administration, contre la corruption également, mais surtout une agitation sociale dans le nord du pays, dans la région du Rif, oui. Justement. Ça dure quand même depuis 6 mois, je crois, depuis le mois d'octobre, manifestation à Al-Hosseima, donc qui est la grande ville, et une manifestation qui gagne maintenant la capitale, Rabat.
Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, malgré la chaleur qui est très aiguë ici à Rabat, des milliers de personnes sont sorties pour un seul point, c'est la libération immédiate et inconditionnelle des détenus du mouvement citoyen Rifain. La population revendique pour établir une plateforme de confiance, une libération immédiate.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs aspects dans cette fronde, hein, aspect identitaire, hein, dans une région donc qui cultive son autonomie, région berbère, aspect social également, 20% de chômage dans cette région, c'est-à-dire le double du royaume du Maroc, les salaires que la population demande à augmenter, on demande aussi de développer des infrastructures, des routes, des universités. Des rassemblements ont lieu quasiment chaque soir à Al-Hosseima. Comment va réagir donc le gouvernement? Comment peut réagir Sa Majesté
Alors,
le roi Mohamed VI?
Sa Majesté Mohamed VI a indiqué au président Macron qu'il n'était pas du tout favorable à une répression policière, en disant, en rappelant que, d'ailleurs, dans la nouvelle constitution de 2011, qui avait été adoptée après les printemps arabes, il y avait des droits fondamentaux, notamment celui de manifester. Mm-hmm. Et je crois qu'en effet, il faut faire... Sur le film, je dis ça pour les téléspectateurs, la radio est un peu plus compliquée, on voit en effet des poissons dans les affiches, parce qu'on rappelle que l'incident de départ, c'était un homme qui avait pêché frauduleusement des espadons, qui avait été broyé par la benne dans laquelle les policiers avaient jeté
le poisson.
Et donc ça avait été dramatique. C'est un jeu extrêmement fin. Il y a quand même eu des élections récemment au Maroc. Il y a quand même une vie démocratique au Maroc qui est, je rappelle que les Algériens ont aussi voté récemment, qui a eu beaucoup de contestations et en indiquant que le résultat était totalement frauduleux. Mais c'est un élément majeur. C'est vrai que peut-être que la France aurait intérêt à aider, alors pas comme certaines propositions au moment de la Tunisie, mais à aider le Maroc, parce que c'est vraiment pour nous un partenaire assez unique et qui a, je suis d'accord avec, j'ai beaucoup d'affection pour nos amis tunisiens, mais je veux dire, il y a une capacité économique et mobilisatrice et un rayonnement politique du Maroc qui peut vraiment soit dynamiser l'Afrique du Nord et la meilleure francophone, car le français est réimplanté au Maroc il y a eu un petit moment, et c'est pour la France un élément majeur.
Lorsqu'il était arrivé au pouvoir, Sa Majesté Mohamed VI en 99, il avait mis fin à cette marginalisation des Rifains, des habitants du Rif, territoire qui avait été réprimé assez sévèrement par le père, par Hassan II en 58, et puis un petit peu plus tard en 84, Pierre Servan.
Oui, effectivement, et puis le Rif, pour ceux qui ont un peu de mémoire historique, nous rappelle des choses, puisque Lyoté, après la Première Guerre mondiale, a été envoyé dans le Rif, justement, pour réprimer la révolte d'Abdelkrim, et il n'y est pas tellement parvenu, et finalement, Pétain a été envoyé en substitution du maréchal Gallieni, ce qui était une façon de faire peu convenable, le jeune de Gaulle à l'époque avait critiqué, parce que c'est une région effectivement berbère, assez irréductible, qui a résisté, dont les frères aussi côté Algérie, sauf erreur de ma part, avaient résisté à l'invasion arabo-musulmane qui était partie des déserts d'Arabie Saoudite pour envahir et coloniser toute une partie du pourtour méditerranéen. Donc voilà, donc on est dans des phénomènes historiques importants. Et le dernier point auquel il faut faire très attention, c'est que le djihado-terrorisme vient toujours se greffer sur des revendications sociales, politiques,
que vous disiez,
identitaires
là, tout à l'heure,
au sens noble du terme, non satisfaites, et dont vous avez une demande de début de printemps. Si le printemps n'arrive pas à déboucher raisonnablement,
ça peut se radicaliser.
Ça se transforme en hiver, et là, vous avez les barbus qui arrivent et qui disent, attendez, moi, tu vas voir, Allah va te régler tout ça, et on va prendre... Donc, c'est l'éternelle difficulté, vous aviez raison tout à l'heure de souligner, le fait que tout ça est politique, au sens noble du terme, et qu'il faut attaquer...
Trouver une solution
aider,
politique.
Et donc,
voilà,
aider
exactement.
Le Maroc, plutôt que de lui tomber dessus, parfois un peu facilement.
On continue l'actu internationale de la semaine. Retour aux États-Unis quand même, avec les taux qui apparemment se resserrent contre Donald Trump, oui, quelques jours après les auditions de l'ancien patron du FBI, du ministre de la Justice en début de semaine. C'est le président américain qui est visé directement, oui, donc par le procureur spécial. Oui, il est soupçonné, Trump, d'avoir fait obstruction à la justice dans le cadre de l'affaire russe. Oui, Moscou, est-ce qu'elle a intervenu ou pas dans l'élection présidentielle? Tournant majeur, le fait que le procureur spécial, oui, s'intéresse directement au président des États-Unis, Jean-Luc.
C'est un tournant majeur. Deux, il avait pensé un peu étouffer l'affaire après par l'audition de James Comey, l'ancien directeur du FBI. Il semblait avoir pas mal géré la chute de l'affaire. Dans le New York Times, la semaine dernière, il y avait un article qui s'intitulait, en parlant de Trump, croyez-moi que j'ai jamais lu un article aussi violent, même dans les presses en France, contre un président en exercice, qu'appelait « Un pays dirigé par un enfant ». Et c'est extrêmement violent. Et il faisait justement référence, disant « Mais comment faire confiance à ce type qui est toujours content de lui, qui raconte n'importe quoi et qui est capable de mettre en danger des alliés en discutant dans une conversation banale, en diffusant des informations. » Donc c'est la crédibilité du personnage dans son travail qui est mise en cause.
Oui, Donald Trump qui veut tout chambouler, hein. Est-ce qu'il va freiner la détente avec Cuba? Oui, mouvement lancé et managé, concrétisé par Barack Obama. Discours ce vendredi à Miami. Alors, le rétablissement des relations diplomatiques ne va pas être mis en cause, mais le président américain souhaite une application plus stricte de l'interdiction des voyages pour tourisme des Américains vers Cuba, et surtout l'interdiction de commercer pour les entreprises américaines avec les entités cubaines contrôlées par l'armée. Conglomérat très présent dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Secteur lucratif pour l'armée, Pierre Servent.
Oui, effectivement. Donc là, on touche du doigt à nouveau à travers cette déclaration du président Trump. D'abord, la volonté de défaire ce qui avait pu être fait dans le bilan de Barack Obama. Dieu sait que j'ai été critique sur le bilan de Barack Obama, mais il y a quelques avancées positives, que ce soit le nucléaire iranien ou là, le rapprochement avec Cuba, dû en partie d'ailleurs au travail d'intermédiation de la diplomatie vaticane, bien qui sûr. A joué un rôle très, très important à l'époque. Mais moi, j'attends la déclaration de la semaine prochaine, où il va dire autre chose sur Cuba qui va complètement détruire ce qu'il a dit là, oui. Parce que, effectivement, la comparaison avec un enfant, les enfants sont infiniment touchants et adorables, mais c'est que justement, les enfants sont de la simplicité du premier élan, et sont pas dans l'intégration de l'arborescence des contraintes. Et lui, il fonctionne comme un enfant au coup par coup, et puis après, ses conseillers lui disent, ah oui, mais il y a tel, ce que vous venez de dire, oui, mais c'est difficile de dire ça, parce que l'ensemble du business, c'est un peu comme en Iran, oui, c'est un peu comme en Égypte, on en parlait tout à l'heure, là, ouais. Donc si vous dites ça, c'est-à-dire qu'en fait, on peut plus faire d'affaires du tout. Ah oui, ah bon. Donc, en ce cas-là, je vais dire ça. Ça donne la position sur Doha. Donc, c'est on va voir l'Arabie Saoudite en disant le Qatar, ce sont des grands criminels, ce sont des grands pourvoyeurs de djihadistes.
Du terrorisme.
Sauf que la même chose peut être dite à propos de l'Arabie Saoudite dans un registre différent. Et puis, la semaine d'après, ils vendent pour 15 milliards d'armements majeurs au même pays. Donc, effectivement...
Avec une énorme base américaine, la plus grosse de la région.
Ils ont une base américaine.
Ah oui, 10 000 hommes, c'est la plus grosse de la région.
Et donc, je le répète, et sans du tout... il a été élu, et aucun doute là-dessus. J'ai dit dès le départ que ce président ne terminera pas son mandat, parce que justement, cette légèreté, y compris par rapport à ses propres assises, fait qu'il va exploser un moment ou un autre, au moment où les Républicains vont commencer à se dire « Mais ce type va nous entraîner pour les élections de mi-terme à la catastrophe. »
Bien sûr.
Et à ce moment-là, non seulement il y aura la justice, oui, mais la politique qui s'en mêlera.
Trump, il met en avant la nécessité pour Cuba d'accélérer dans le domaine des droits de l'homme. Bon, il y a une crainte de retour en arrière. On peut revenir en arrière, franchement, du rapprochement à Cuba.
Sur Cuba?
Ouais.
Ah non. Là, je crois que...
Ce qu'a lancé Obama, c'est irrémédiable.
Oui, parce que ça a été un mouvement... je parle des Cubains. Ouais. Ça a été un mouvement qui a été lancé quand même après... Je sais que c'est le bonheur sur Terre, que le système de santé est performant, qu'il fait chaud, qu'il fait bouillir au cigare, tout ça. Mais je pense que véritablement... Là, on parlait de jeunesse tout à l'heure. Mais la jeunesse cubaine qui s'est tout d'un coup aperçue qu'il pouvait y avoir une possibilité
projeté,
de développement de vie. Je pense que vraiment, ça ne se ferait pas sans... réaction extrêmement violente de la population et en échange de l'armée. Et je pense que pour moi, c'était réversible.
Jean-Luc Sauron, Pierre Servent, qu'on va retrouver dans un instant. On va parler des élections législatives remportées par le camp des guerriers. Non, législatives au Kosovo, hein, les Balkans. Partie toujours explosive du continent européen. On revient vite. 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Toujours avec nous, il y a Pierre Servent, il y a Jean-Luc Sauron. Alors les élections législatives dimanche dernier, alors bon, chez nous, mais bon, on n'en parle pas évidemment aujourd'hui, hein. Il y a le second tour, élections législatives également au Kosovo, oui, ce petit pays à majorité albanophone, à 90% musulmans, donc on est dans les Balkans, hein, un pays qui s'était construit en 2008 en s'affranchissant de la Serbie. Tout le monde ne reconnaît pas le Kosovo et notamment les pays de l'Union européenne. Tout le monde ne reconnaît pas ce pays. En tête du scrutin, la coalition des guerriers. Je vous le disais, donc c'est la vieille garde du président Hashim Tachi. Un tiers des voix, c'est ceux qui avaient combattu dans les rangs de Lucheka, donc dans la guérilla contre les Serbes dans les années 90. Son leader, c'est Ramush Haradinaj.
Je félicite le Kosovo pour des élections réussies. Je sais que nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous sommes prêts à le faire ensemble.
Jean-Luc Sauron, son petit nom, c'est Rambo. Il avait déjà dirigé le pays avant d'être inculpé pour crime de guerre par le tribunal de La Haye. Il avait été blanchi, mais il est toujours poursuivi par Belgrade. C'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement, comment dire, sympathique.
Je ne sais pas s'il n'est pas sympathique. En tout cas, c'est pas un homme consensuel, ouais. Et c'est pas un homme de dialogue, et c'est dommage. Mais je crois qu'il faut profiter de cet épisode kosovar pour parler un peu de la zone. Et c'est une zone qui est extrêmement instable. Et les Européens, en effet, regardent beaucoup Moyen-Orient, Cuba. Mais ça, c'est à nos portes. Et vous avez des zones très différentes, mais instables. En Serbie, ils viennent de choisir une Premier ministre, non seulement femme, ce n'est pas banal dans la zone.
Madame Brnabic, hein,
mais qui est
41 ans.
Ouvertement homosexuelle.
Oui, oui.
Là aussi, dans une région où la région orthodoxe traditionnelle a un poids très particulier, c'est pas banal. Vous avez Rambo au Kosovo. Il faut savoir que le Kosovo, en effet, c'est un État quand même, il faut savoir, c'est le territoire le plus riche en métaux rares en Europe. C'est pour ça que c'est un État qui a des relations très fortes avec la Chine et les Russes. Et surtout, vous voyez, l'indépendance, c'est très bien. Et la Macédoine, dont on ne parle pas actuellement, mais dont on parlait il y a 3 semaines, parce qu'il y a la coexistence, il faut quasiment parler de coexistence, entre la population majoritairement albanophone et musulmane, mais une minorité macédonienne, orthodoxe, traditionnelle, qui est extrêmement violente. Il y a eu les accords de Ried, il y a 16 ans, qui avaient été patronnés par la France. L'accord a été rédigé par Robert Badinter. Donc on sent bien que c'est une zone, et je dis ça parce que le président Juncker de la Commission, il n'y aura pas d'élargissement durant mon mandat. Donc jusqu'à 2019, il n'y aura pas d'élargissement. Il faut faire attention à ce qu'on dit et on fait, parce que cette région reste vaguement stable ou globalement stable parce qu'il y a cet espoir d'appartenir à la zone européenne. Et c'est une zone, j'en terminerai par là, où par exemple, notre ami, parce qu'on le cite souvent, Vladimir Poutine, a des volontés d'expansion et économique et autres.
Oui, parce que vous n'avez pas cité, par exemple, le Monténégro, qui vient de rentrer dans l'OTAN, et on sait qu'il y a une minorité russophone, enfin russe, en tout cas, slave, voilà, une minorité slave, pardon, je cherchais le terme, minorité slave, et avec Poutine qui tire un peu les ficelles. Il y a une tentative d'assassinat contre le président monténégrin il y a quelques semaines. On pourrait rajouter aussi Pierre Servan, aussi, ses foyers salafistes, en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Et le Kosovo, pays sous tension, zone explosive, tension avec la minorité serbe, velléité de se rattacher à l'Albanie. Comment ça se termine?
En général, ça se termine par, comment dirais-je, pas par la guerre, mais par des guerres, ou des formes de tension. Et ce que vous dites est intéressant, parce que face à cette espèce de kaléidoscope incroyablement compliqué qu'on vient de voir à travers le monde, moi j'essaye de temps en temps de rassembler ça dans des grandes lignes forces pour essayer de comprendre quelque chose, ce qui n'est pas simple. Et en fait, on voit, à mon sens, deux choses. D'une part, une volonté assez planétaire de repli tribal et tripal. Un tripal, c'est l'instinct, hein, donc l'autre est différent, donc il me fait peur, etc. Et tribal, j'ai besoin d'une identité la plus proche de moi, donc celle qui me ressemble le plus, et tout ce qui est différent est repoussé. Et dans cette configuration-là, il y a, me semble-t-il, à travers la planète, une demande de tyrannie. Alors, dans la demande de tyrannie, demande du tyran, au sens grec du terme, c'était pas nécessairement un affreux personnage. C'était le fait que les Grecs, à un moment, déléguaient un personnage très fort, une sorte de j'allais dire, de Macron actuel, pour la partie...
Macron-Tyran, non.
Attendez, si, au sens grec, c'est pas le tyran, etc. Mais le pire du terme, c'est le tyran impavide, etc. C'est Poutine, c'est Erdogan, etc., etc. Il y a un autre personnage. Donc, face à ce monde en fragmentation, il y a une demande de tyrannie et de tyran du plus acceptable au sens ancien du terme, jusqu'au sens le plus grave et le plus dangereux. Et c'est pour ça que les guerriers sortent, parce que ce sont des personnes fortes.
Au Kosovo,
fortes,
bien sûr.
Au Kosovo.
L'armée des guerriers, bien sûr. Des guerriers.
Trump, America First, c'est « je vous protégerai ». Erdogan, avec sa révolution aujourd'hui, c'est mieux. Poutine, qui va se faire réélire l'année prochaine pour un nouveau mandat de 6 ans.
On ne sait pas.
A priori, il sera à la fin de son mandat, il aura fait un quart de siècle de pouvoir. Et c'est un personnage qui se fait photographier avec un fusil, torse nu, etc. Donc vous avez cette demande-là, et c'est là où l'Union européenne a quelque chose à apporter, non pas d'aller vers de la tyrannie, mais de montrer qu'elle peut être une Europe puissance pour arriver à peser face à ces demandes déréglées de tyrannie. Alors sur Emmanuel Macron, il y avait un clin d'œil, parce qu'en ce moment, on dit beaucoup le bonapartisme, etc. Mais il n'empêche qu'une partie de son attraction d'Emmanuel Macron, c'est aussi une capacité à incarner une certaine autorité qui répond aux problèmes actuels.
Oui. Belgrade refuse l'indépendance du Kosovo. Le vainqueur des élections qu'on a entendu tout à l'heure, Monsieur Haradinaj, lui, il dit non à l'association de municipalités serbes. Il y a des poursuites à venir contre des anciens de Lucheka, donc ce camp qui a gagné pour torture, pour trafic d'organes après la guerre. Oui, l'évolution du Kosovo, un mot.
Non, parce que moi, je vous dis une liaison entre les différents Albanais. Mais en réalité, il faut savoir que les Albanais macédoines ne sont pas les Albanais du Kosovo. Les Albanais du Kosovo, qui sont majoritairement musulmans, ne sont pas les Albanais d'Albanie, qui sont majoritairement catholiques. Donc, croyez-moi, il y a un pulse délirant, absolument délirant. Pareil, la Bosnie-Herzégovine, c'est la tentative de l'Arabie saoudite d'implanter le salafisme en Bosnie-Herzégovine.
Qui a bien
résisté,
totalement.
Mais on voit bien qu'on est totalement...
C'est une vraie menace, hein.
Moi, je l'ai vu, dans les années 90.
C'est pour ça que le blanc-seing donné par Trump à l'Arabie saoudite est un peu excessif, compte tenu de ses... Parce qu'il a dit sur le Qatar, on peut le dire aussi un peu sur l'Arabie saoudite.
Ouais, juste un mot, vous avez cité Mme Brnabić, donc la nouvelle première ministre de Serbie, 41 ans. En Irlande aussi, cette semaine, on a un gay... métisse d'origine indienne, jeune aussi, il a 38 ans, qui devient Premier ministre, Leo Varadkar. Les exemples de nouveaux dirigeants européens se multiplient en Europe. Emmanuel Macron, bien sûr, en France. Il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir. Et puis, dites-nous, et puis on va se dire au revoir, Jean-Luc. Hein.
Il y a une nouvelle génération. Et pour reprendre ce que vient de dire Pierre, il y a une spécificité de l'espace européen. Vous avez, dernier G7... il y a eu des dames, des épouses, et il y a eu l'époux du Premier ministre luxembourgeois.
Ah bah oui, aussi, bien sûr. Ouais.
Qui est venu, voilà. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un rajeunissement, mais il y a aussi une acceptation, une acceptabilité de valeurs et de morale de société qui est unique à l'espace européen.
Et tout ça donne du dynamisme, une nouvelle image au continent, Pierre Servent, pour
conclure. Absolument. Le Premier ministre a dit une formule que j'aime beaucoup, je crois réelle, la France est de retour, et je pense que l'Europe est de retour aussi, par le courage notamment d'un candidat devenu président, qui a remis cette dimension sur la table, alors que c'était pas du tout populaire. Bon. Effectivement, notre avenir, c'est la France de retour, et l'Europe de retour, pour faire face à tout ce monde qu'on vient de décrire pendant une heure, qui est un tout petit peu préoccupant.
Pierre Servent avec nous, spécialiste des questions de défense. Alors, notez bien donc Le Testament Olic, c'était son roman sorti l'année dernière, et puis toujours en vente, hein, évidemment, à l'approche des grandes vacances. Les présidents à la guerre, 1958-2017. Merci Pierre Servent, merci Jean-Luc Sauron. Faites l'Europe à la guerre, on vient d'en parler bien entendu. Voilà, aussi, oui, je sais pas. Professeur de droit européen à Paris Dauphine. 7 jours dans le monde revient évidemment la semaine prochaine.
BFM Business, 7 jours dans le monde.